Bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
Des violences ont eu lieu hier lors de la manifestation du 1er mai à Paris. Plusieurs pompiers ont été blessés. Est-ce que vous avez vu dans ces violences un message adressé au président de la République à l'aube de son deuxième mandat ?
Non, c'est pas un message au président de la République, c'est juste une violence insupportable à l'encontre.
Certains l'ont dit pourtant hier dans le cortège. Il faut que Macron nous entende, il est réélu.
On n'entend pas sous le joug de la violence ou de la menace. Vous savez, on a vécu un mandat où certains ont voulu ça, où certains ont voulu menacer, intimider, violenter, parfois jusque physiquement, des parlementaires, des élus locaux, des maires en ont été les victimes. Et encore une fois, il n'y a pas de négociation à avoir, il n'y a pas de dialogue à avoir à partir du moment où certains voudraient l'exercer sous la menace. On a des images absolument scandaleuses. Je pense notamment à ce pompier qui essaye d'éteindre un incendie en cours et avec cette femme qui essaye de manière très agressive de l'en empêcher. Il y a des images. J'espère qu'elle pourra être identifiée et qu'elle sera sévèrement condamnée comme elle le mérite.
Jean-Luc Mélenchon a, à cette occasion, une nouvelle fois mis en cause le préfet de police de Paris, qu'il a accusé d'être incapable de garantir le droit de manifester en paix. Qu'est-ce que vous ont inspiré ces propos ?
Encore une fois, Jean-Luc Mélenchon, il déleste toujours la responsabilité sur les autres. Et c'est malheureusement pas la première fois. Je me souviens de très grands cortèges syndicaux de 1er mai qui rassemblaient parfois plus d'un million de personnes et où les organisations syndicales et les partis politiques qui appelaient à cette mobilisation arrivaient à organiser tout simplement leur propre service d'ordre et où les choses se déroulaient dans le calme. Ce qui est certain, c'est que maintenant, on a depuis des années, depuis les manifestations à l'encontre de la loi El Khomri, en permanence des manifestations qui sont émaillées de violence. Donc il ne faut pas mélanger évidemment ceux qui viennent très sincèrement manifester, qui ont un mot d'ordre politique, social, et ceux qui viennent pour casser. Mais je crois qu'il faut surtout, ce que n'a pas fait Jean-Luc Mélenchon, avoir une condamnation claire de ces violences et un mot de soutien à l'égard des policiers et des pompiers qui ont été touchés.
La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts ont conclu cette nuit un accord pour les élections législatives. Les négociations se poursuivent avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Est-ce qu'une victoire d'une coalition de gauche aux élections législatives est un scénario que l'on prend au sérieux dans la majorité ?
Ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'on a une élection qui s'appelle élection législative et que c'est cette élection qui va décider tout simplement aussi de l'avenir du pays. On a une élection capitale qui s'est déroulée avec l'élection présidentielle, mais on a ensuite besoin d'avoir une majorité sur laquelle s'appuyer pour gouverner et pour mettre en œuvre aussi le projet qui a fait que le président de la République a été placé en tête du premier tour, qualifié au second et l'a remporté. Donc ça, c'est le point de départ. Après, il y a des oppositions qui sont quand même très fracturés et surtout à gauche, quand je vois ce qui est prétendument une union de la gauche, je vois aussi des grands élus, des présidents de région, des maires refuser cette soumission à la France insoumise, refuser d'abandonner leur histoire politique, d'abandonner leurs valeurs pour essayer de sauver peut-être une poignée de sièges, parce que ce qui attend les partis qui, à mon avis, notamment le Parti Socialiste, s'ils acceptaient cette alliance, c'est tout simplement une disparition à la fois de leurs idées, mais aussi une disparition de leur parti politique.
Donc Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, c'est une hypothèse à laquelle vous ne croyez pas un instant.
Je ne la souhaite pas.
Ça,
c'est certain, parce que je ne souhaite pas que les idées, les valeurs et un certain nombre de candidats aussi investis par Jean-Luc Mélenchon soient demain celles et ceux qui seront en capacité de gouverner le pays ou d'avoir une majorité parlementaire. Jusqu'à l'exemple le plus caricatural qui était Aboufaz, qui a été condamné.
Un militant journaliste.
Oui, je sais pas, militant, c'est certain, et qui a été condamné pour injure en raison de l'origine. Donc je crois que ça devrait, à lui seul...
Une syndicaliste policière.
Exactement, cette condamnation, elle devrait à elle seule le disqualifier tout simplement de pouvoir être candidat. Et les autres partis politiques ne devraient pas accepter de s'associer à ce type de candidat. Encore une fois, est-ce que le seul enjeu du Parti Socialiste ou d'Europe Écologie, c'est de sauver une poignée de sièges ou c'est de faire valoir les idées, les valeurs qui sont les leurs ? Et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui se reconnaissent dans des valeurs progressistes, des valeurs sociales, des valeurs européennes, qui ne pourront pas accepter cette union et qui, à mon avis, se reconnaîtront dans le projet que nous portons.
Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, a adressé vendredi une lettre assez longue au président de la République, dans laquelle il évoque un certain nombre de sujets. Mais il y a un passage de ce courrier qui déchaîne les passions depuis vendredi, puisque beaucoup y voient une intention d'autoriser le port du burkini dans les piscines de la ville. Je le cite, donc le maire de Grenoble. À Grenoble, nous veillerons à ce qu'aucun règlement intérieur, aucun équipement public ne constitue une injonction ou une discrimination. Nous considérons que ce qui est la marque du patriarcat, c'est l'injonction à se couvrir ou se découvrir. Nous devons regarder la pertinence de ces interdits qui ne font pas avancer et qui ne respectent pas la liberté de pratiquer ou non une religion. Est-ce que les villes doivent pouvoir autoriser ce que l'État cherche à combattre ?
Vous savez, il y a quelques années, on avait eu un autre débat sur les piscines municipales qui était la question des horaires d'ouverture de ces piscines où certains prônaient prétendument au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes des horaires où seules les femmes pouvaient accéder aux piscines. Moi, je crois profondément à l'universalisme et donc à la mixité qui doit pouvoir exister dans notre société aujourd'hui et heureusement, dans notre pays, tous les hommes, toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur origine, ont accès aux établissements publics, aux équipements publics et ont la possibilité de pratiquer un sport professionnel ou amateur. Nul n'est empêché aujourd'hui d'accéder à une piscine. Par contre, il y a des règles sanitaires qui sont mises en place parce que ça n'est pas un équipement comme un autre, qui fait que d'ailleurs, pour un homme, souvent, on impose en effet des tenues qui doivent être des tenues réglementaires. Et je crois qu'il ne faut pas y déroger parce que si on commence à y déroger, demain on aura à nouveau la question des horaires de piscine qui devront être réservés à certains. Et puis après, on le fait sur quels critères, sur quelle base. Donc moi, je crois qu'il faut rappeler un principe fondamental dans notre République laïque, c'est que personne n'est empêché. Et si certains veulent se mettre en retrait des lois, c'est à un moment leur choix, mais ça n'est pas à la République de plier face à ça.
Votre collègue députée de l'Hérault, Coralie Dubost, annonce qu'elle se met en retrait de la vie politique après des accusations sur une gestion jugée dispendieuse de ses frais de mandat, mais aussi sur des comportements avec certains de ses collaborateurs qui auraient confiné au harcèlement. Vous aviez eu vent de cette affaire avant qu'elle ne sorte ces derniers jours?
Non, je l'ai découvert au moment où Mediapart a publié son enquête.
Est-ce que ce n'est pas ce genre d'affaire qui, d'une certaine manière, favorise l'abstention en dégoûtant les Français de la politique ?
Vous savez, quand on est arrivé en 2017, la première loi qu'on a votée, c'était la loi justement sur la moralisation de la vie politique. Ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale, ce qui n'a d'ailleurs jamais été fait au Sénat, c'est qu'on a supprimé ce qu'on considérait être comme des avantages indus des parlementaires. On a, par exemple, supprimé le régime spécial de retraite qui existait pour les députés. Au Sénat, ça persiste. On a mis en place des règles très claires de transparence. Avant, en vérité, les députés, ils pouvaient de manière beaucoup plus large, utiliser leurs frais de mandat. Il n'y avait pas de contrôle. Aujourd'hui, on est contrôlé. Je viens d'être contrôlé. Tous les députés sont contrôlés sur une année prise au hasard. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez l'être. Donc vous devez, et c'est normal encore une fois, rendre des comptes parce que c'est de l'argent public. Et cet argent public, il doit être utilisé dans un cadre qui est très réglementé, qui est la manière avec laquelle vous exercez votre mandat. Vous louez par exemple une permanence, vous pouvez avoir un stagiaire. C'est uniquement à ça que doivent servir ces frais de mandat. Quand il y a et s'il y a des manquements, alors ils doivent être clairement sanctionnés.
Pourquoi la constitution du prochain gouvernement prend-elle si longtemps ?
Tout simplement parce que le président de la République va devoir être réinvesti en tant que président de la République dans les jours qui viennent. Et puis c'est lui ensuite qui définira le nouveau Premier ministre et le nouveau gouvernement. Mais je crois que les choses, elles se passent aussi de manière très apaisée. Le Premier ministre actuel, d'ailleurs, avait dit très spontanément lui-même qu'il souhaitait, pour un nouvel élan dans ce deuxième mandat, démissionner de ce mandat actuel. Donc je crois que ça prend le temps nécessaire. Et puis surtout qu'après, on va pouvoir s'engager dans la campagne des législatives.
Très rapidement, qu'est-ce que vous espérez pour vous-même dans ce quinquennat ?
Moi, j'espère une majorité parlementaire pour le président.
Non, mais personnel.
J'espère ça. J'espère qu'on puisse mettre en œuvre le projet sur lequel on a été élu. J'espère qu'on puisse à un moment assumer de dire qu'il n'y a pas un président illégitimement élu et que la vie démocratique a fonctionné dans notre pays.
Merci Aurore
Berger.
Merci, bonne journée.